Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous dire que je ne suis pas seul. Je suis accompagné par Clarisse Chantelot, chef et fondatrice du chœur grégorien de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin et spécialiste de ce grand, long, beau répertoire. Et donc, aujourd'hui, tous les deux, on a eu envie de vous parler de ce répertoire qui a irrigué toute la musique occidentale, que ce soit d'ailleurs la musique sacrée comme la musique profane. Aujourd'hui, on va bien sûr se concentrer sur le volet sacré. Mais ce qu'on voulait vraiment vous montrer, c'était que c'était une esthétique qui a su traverser les siècles et qui aujourd'hui touche encore les chœurs. Et donc, on va pouvoir explorer tout cela avec quelques siècles de musique. Bonjour Clarisse.
Bonjour Jean. Et merci pour cette idée d'émission autour du chant grégorien, qui est un répertoire absolument passionnant.
Alors, je te propose tout de suite de parler presque un petit peu d'histoire. Alors, évidemment, c'est plusieurs siècles, voire même plus que ça, de parler de chant grégorien. Est-ce que tu peux, de manière assez rapide, nous parler d'une évolution du chant grégorien jusqu'au premier chant qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est un répond, je crois.
Exactement. Alors le chant grégorien, on va dire qu'à l'origine c'est un chant sacré chrétien qui est tiré de la tradition juive du chant des psaumes. Donc ce qu'on va écouter, le petit répond, fait entendre une sorte de psalmodie, c'est-à-dire un texte centré sur une hauteur musicale et des petites vocalises qui permettent d'infléchir la phrase et en même temps d'aider à comprendre le sens du texte. Ce répond est chanté en antiphonie, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va lancer le texte principal et ce texte va être repris par le chœur. C'est un chant qui s'exécute de mémoire. Donc dans cet exemple, on entend bien comment des choristes peuvent mémoriser et interpréter le chant grégorien à partir de sa forme simple, en alternance sur un petit répond, qui est de la méditation d'une lecture.
Ok, donc si je comprends bien, c'est donc une tradition orale. Donc en fait, on l'entend bien avec ce type de répond-là, qui est assez simple, avec un jeu de questions-réponses. Et en même temps, le fait de chanter, ça permet de magnifier un peu le texte. C'est pour ça qu'on chante d'ailleurs, non?
Exactement. C'est-à-dire que le chant permet d'atteindre une sorte de transcendance. Il permet d'accéder aussi à un sens supplémentaire du texte, tel qu'on pourrait l'avoir juste en lecture simple.
Okay. Donc en fait c'est la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cette psalmodie juive et on a le grégorien. Et en fait, qu'est-ce que le grégorien va apporter à cette psalmodie qui existait déjà?
Alors ça va être un petit peu plus tard, donc un petit peu après le répond. Du coup, je vous propose d'écouter déjà ce petit répond et puis ensuite on va parler un petit peu de ce qui se développe dans le chant grégorien.
Eh ben, c'est une excellente idée. Alors on va écouter ici les moines de l'abbaye Notre-Dame de Fontgobault qui nous interprètent donc ce répond sur le thème de l'Ave Maria.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Et voilà pour ce premier répond bref qui est symptomatique de ce chant grégorien un petit peu archaïque. Et tu as voulu maintenant nous présenter un deuxième chant, un Gloria ambrosien, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces subtilités? Pourquoi tu nous fais écouter ça? Qu'est-ce que c'est que cette forme? Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau?
Alors, ce Gloria, il fait entendre la première pratique du chant, celle qui arrive avant qu'on parle de mode, c'est-à-dire d'échelle de son ordonnée avec une hauteur qui serait plus importante qu'une autre. Et là, on va entendre, je crois, vraiment le premier travail du compositeur, c'est-à-dire placer une vocalise qui est déjà plus complexe que celle du répond bref sur une partie du texte particulièrement importante. Alors ici, on va entendre par exemple une vocalise sur le mot « Jésus Christ ». Comme il s'agit d'un Gloria, la première vocalise ce sera sur « Tibi ». Nous te rendons grâce. Il est construit en antiphonie, comme tout à l'heure le répond bref. Donc il y a une alternance entre deux parties du chœur. Et c'est à partir aussi d'une note principale. Ce qui change vraiment par rapport au répond bref, c'est cette irruption de la vocalise développée.
Ça c'est très intéressant. Et qu'est-ce que ça veut dire ambrosien ?
Ambrosien, c'est plutôt un type de chant qui était pratiqué du côté de l'église de Milan.
D'accord. Et ça s'opposait à un autre type de chant ou pas ?
Alors à cette époque-là, c'est-à-dire au premier siècle du chant grégorien jusqu'à l'unification, il existait des répertoires un petit peu différents qui variaient suivant aussi les rituels liturgiques. Rituel liturgique n'était pas totalement unifié, pardon, même D'accord. si la foi était identique.
Donc ambrosien, Saint Ambroise de Milan, donc effectivement l'église de Milan. Et donc on va écouter sans plus attendre ce Gloria avec cette forme particulière. Donc soyez bien attentifs à ce que vous disait Clarisse, c'est-à-dire cette, là aussi, forme presque de psalmodie, presque de monodie, ça bouge pas beaucoup, et ces envolées, ce contraste qui se fait sur certains mots qui les mettent en exergue, c'est là tout le génie de ce répertoire-là. Et effectivement, c'est là, et c'est fondamental dans ce que dit Clarisse, c'est que le compositeur va vraiment avoir ses lettres de noblesse dans la façon de mettre en place son génie en fonction du texte. C'est vraiment le mariage de la musique et du texte. Voici donc ce Gloria ambrosien.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus corivorum patris, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi.
Gloria 4, ici interprété par le chœur grégorien de Paris, avec cette fameuse psalmodie et ces fameuses envolées, ces mélismes, on appelle ça des mélismes, sur les notes et sur les mots particuliers qui vraiment montrent le génie de cette musique grégorienne, qui aujourd'hui encore sont une école formidable pour les chanteurs sacrés. Tu voulais peut-être nous dire autre chose sur ce Gloria, Clarisse?
Oui, alors on entend bien cette forme qui permet à l'assemblée de répondre à la scola, en particulier sur le Gloria, donc avec une phrase qui au départ est toute simple et qui ensuite se poursuit par le développement vocalise. Alors sur cette vocalise, je voulais Jean faire remarquer aussi que ça nous permet d'entendre une couleur particulière. C'est justement ce que j'appelais mode tout à l'heure.
Parce que non, moi je parle beaucoup de tonalité quand je parle beaucoup de musique plus moderne, et toi tu parles en termes de mode. Ok,
Exactement.
et en fait qu'est-ce que c'est que ce mode?
Alors, le mode par rapport à la tonalité, on va dire que c'est une façon de catégoriser les compositions, c'est-à-dire de les ranger un petit peu avec un réservoir de notes qui leur donnera telle ou telle couleur, telle ou telle atmosphère. Et on va choisir cette atmosphère, cette couleur, en fonction du jour, mais aussi en fonction de l'heure. C'est-à-dire, par exemple, pour une pièce qu'on compose pour l'office, qui est l'office du soir, comme les vêpres, n'aura pas peut-être la même modalité par choix que ce qui serait une pièce pour l'office de nuit, par exemple.
D'accord, donc c'est captivant en fait, on s'adapte vraiment en fonction de presque de l'humeur des gens, en plus de se marier avec le texte. C'est une musique qui est très complète en fait, le grégorien. Enfin, je trouve ça moi absolument captivant. Et donc effectivement, j'espère que vous avez pu vous en rendre compte avec ce Gloria. Faussement simple, parce que je peux vous dire que chanter des choses comme ça, ça a l'air simple, mais c'est en fait assez compliqué. Et d'ailleurs, petite parenthèse, nous avons enregistré il y a quelques jours à l'abbaye de Fontfroide un CD sur le chant grégorien et autour de la musique de Saint Thomas d'Aquin. Alors, on a encore le temps hein, avant de voir ce CD sortir, mais voilà, c'est Clarisse qui l'a dirigé et on a travaillé avec une maison de disques qui s'appelle Psanous. Très très belle maison et donc ça sera un beau répertoire et ça nous donnera l'occasion d'y revenir l'année prochaine et de revoir Clarisse autour de ce beau répertoire. Alors maintenant, on va passer sur quelque chose de très différent, beaucoup plus travaillé si j'ose dire, avec un offertoire et un thème assez célèbre, hein, je dois dire, le Jubilate Deo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et pourquoi tu as choisi cet extrait-là, Clarisse?
Alors déjà, j'ai choisi l'offertoire parce que c'est le moment de la messe où les chanteurs ont le plus de place en termes de temps, on va dire. L'offertoire, à l'époque médiévale, la partie chantée pouvait occuper quasiment 20 minutes de chant. Je ne sais pas si on s'en rend
Ah oui,
compte aujourd'hui,
punaise.
mais c'est totalement différent des liturgies qu'on peut entendre. C'est-à-dire il y a une partie principale de l'offertoire qui est chantée par la scola. Et comme ce sont des pièces vraiment composées, puisque là on est dans l'époque où le christianisme est religion officielle, c'est une pièce d'apparat pendant la procession, pendant l'encensement, donc qui est virtuose et exécutée par une scola. Et elle se complète par des versets, qui sont des sortes de couplets, confiés à des solistes de voix différentes, qui ensuite permettent d'exprimer tout le mysticisme de ce moment très particulier qui va précéder la consécration, à travers des vocalises. On a vu tout à l'heure la petite vocalise où la voix descendait à partir du médium, donc descendait vers le registre grave pour donner une couleur. Donc ici, dans un chant composé, on va entendre la vocalise qui se développe aussi bien à partir du grave que du médium ou de l'aigu.
Ok.
Et le texte là, c'est Jubilate Deo Universa Terra. Donc évidemment, on imagine que cette vocalise énorme qui va se développer après cette première phrase représente en quelque sorte l'universel, c'est-à-dire la totalité du monde connu. Et pour cela, on entend une montée qui se produit d'abord par l'échelle pentatonique, c'est un mode de cinq notes principales qui est commun à beaucoup de traditions musicales, et ensuite va se poursuivre bien au-delà des cinq premières notes. Donc montrant ainsi toute la virtuosité qu'on peut attendre d'une scola spécialisée, puisqu'elle couvre largement plus d'une octave.
Ok, donc c'est vraiment de la musique difficile, mais en même temps très très belle. Alors là, je crois que nous allons entendre un soliste. Et en fait, on va comparer deux Jubilate Deo. Juste, si on peut rebondir sur ce qu'on a dit précédemment, est-ce que là, du coup, on va choisir Jubilate Deo, un mode qui est plutôt joyeux? Il y a des modes comme ça qui sont plus joyeux?
Ça dépend un petit peu aussi de la rythmique qu'on lui donne, parce que c'est vrai que le chant grégorien, on s'imagine souvent que ce sont des notes carrées, mais en réalité, les premières notations n'étaient pas du tout carrées, c'était plutôt des courbes, des points, des virgules, quelque chose comme ça. Donc avec des signes qui finalement ont une énergie propre.
Bah, cette espèce de modalité. En fait, ce que je voulais comprendre, c'est est-ce qu'on a choisi pour ce jubilaté un mode particulier qui se veut joyeux ou pas, ou solennel? Enfin, quel est le ton qui a été choisi
Alors, c'est le premier mode, c'est-à-dire le mode de Ré. C'est un mode assez solennel et qui a une grande amplitude, puisque en général, il conclut au grave et il se développe vers l'aigu. Donc c'est là ce que vous allez entendre dans cette grande vocalise qui parcourt en fait toute l'étendue du mode et bien au-delà, puisque normalement, en général, les pièces grégoriennes sont plutôt réservées, on va dire intimistes. Celle-ci est très démonstrative.
Ok, et eh bien écoutez, sans plus attendre, nous allons entendre ce Jubilate Deo, ici par un soliste, et ensuite vous allez entendre un petit comparatif, on vous en dit pas plus. Ah, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, je rajoute juste une petite chose avant qu'on l'écoute, puisque le soliste a enregistré cela dans une église, et donc on va entendre une sorte de polyphonie créée par la résonance de l'église.
Ah, ça c'est tout le génie du grégorien, parce que c'est vrai qu'on se dit tout le temps, ben, il n'y a qu'une seule voix, et en fait l'église chante avec le choriste. C'est ça qui est absolument fabuleux dans ce répertoire-là. Alors faites-vous votre propre idée avec ce Jubilate Deo.
Thank you.
C'était Marek Klein qui interprétait ce magnifique et très ornementé Jubilate Deo, une musique passionnante, extraordinaire. Et ici, on va presque faire un 180 degrés dans la façon de chanter avec les chantres du Touronnais qui chantent également Jubilate Deo, mais vous allez l'entendre de façon extrêmement différente. Pourquoi est-ce que cette façon de chanter, Clarisse, est intéressante et pourquoi est-ce qu'on a cette façon de chanter qui est si différente?
Alors, il s'agit d'une reconstitution d'après les pratiques traditionnelles de chant, qui était probablement la façon de chanter à l'époque où ces offertoires grégoriens étaient composés. Donc c'est Damien Poisblot qui fait ce travail remarquable de restitution avec un ensemble spécialisé en s'appuyant sur les chants byzantins et les façons de chanter aussi un petit peu qu'on retrouve dans la tradition corse encore de nos jours. On peut reconnaître la phrase interprétée tout à l'heure par Marek, mais avec des petites ornementations supplémentaires, un placement vocal différent qui favorise les harmoniques et une esthétique vraiment qui nous transporte un petit peu plus près de l'Orient, on va dire, que celle qu'on a entendue tout à l'heure.
D'accord, donc c'est effectivement très passionnant. Vous allez entendre, parce que là on en parle, on le théorise, mais quand vous allez entendre dès les premières notes, vous allez effectivement vous rendre compte que c'est très différent. Et Clarisse faisait référence au chant corse. Effectivement, si vous connaissez ce répertoire-là, ça se ressemble. Je vous avais fait il y a quelque temps une petite émission avec notamment Marcel Pérez, qui reprenait des chants corse, et vous allez entendre, il y a cette espèce de proximité dans la façon de chanter. Mais ici on retourne avec les chantres du Touronnais, qui interprètent donc le Jubilate Deo. Et vous allez entendre, c'est absolument spectaculaire. Voilà pour cet extraordinaire Jubilate Deo, chanté d'une façon un petit peu spéciale, plus documentée, plus experte dans son approche et historique en tout cas. Ça donne effectivement à voir deux façons d'entendre différentes le chant grégorien. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, et bien penchez-vous sur tous les enregistrements de cet ensemble et vous pourrez vous faire votre propre idée. Et maintenant Clarisse, nous allons terminer cette émission par l'un des grands tubes du chant grégorien qui est resté avec l'une des quatre séquences obligatoires que prévoit l'Église catholique, j'ai nommé le Victime Paschali Laudes.
Oui, alors Victime Paschali Laudes, justement, on sort de cette composition pleine de vocalises, c'est-à-dire que dans le type séquence, le texte n'est plus biblique, il est composé et il est chanté de façon syllabique, donc une syllabe égale une note. Et on a, dans ce début du Victime Paschali Laudes, les mêmes notes que celles de la vocalise du Jubilate Deo que nous venons d'entendre, qui est bien sûr aussi du répertoire du temps de Pâques. La séquence, elle se chante également en antiphonie et elle tend à édifier l'auditoire par le récit d'un événement important dans la liturgie, en l'occurrence la résurrection de Jésus. Elle se chante avec l'Alléluia assorti.
D'accord, donc l'objectif c'est vraiment de faire une sorte de grand prélude Alléluia et d'avoir cette façon de faire de presque de catéchèse, de pouvoir introduire ce jour spécial qu'est la résurrection du Seigneur. Ici nous allons entendre les moines de l'abbaye de Saint-Pierre de Solesmes.
Victime Paschali Laudes, immolé Christiani, agnus redemi tuus, Christus in nocens patri, reconciliari peccatores. Nos et vita
Voilà pour cette incursion autour du grégorien. Bien entendu, vous vous doutez qu'un tel répertoire aussi vaste mériterait beaucoup d'émissions, mais nous avons pu ici vous montrer quelques petites pistes. Et si vous avez apprécié cette séquence du Victime et Pascal et Laudes, eh bien, je vous invite à venir au prochain concert de la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Sernin, qui aura lieu le 9 mai à 20h dans la Basilique. Et pourquoi est-ce que je vous parle du Victime et Pascal et Laudes ? Non seulement nous allons le chanter, mais en plus, d'autres compositeurs, et en l'occurrence Bach, s'en sont servis pour écrire quelques-unes de leurs plus belles pages. Donc si vous voulez entendre la cantate 4 de Jean-Sébastien Bach autour du Victime et Pascal et Laudes, venez sans plus attendre au prochain concert de la Schola Cantorum, donc le 9 mai à 20h. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et merci beaucoup, Clarisse, de nous avoir présenté toute cette belle musique.
Merci beaucoup, Jean. C'était un grand plaisir de partager cela avec vous.
Allez, à bientôt et surtout portez-vous bien et prenez vos places sur le site de la Schola.